Et maintenant, je pense que dans la foulée en fait, de cette exposition, pour ce charme de cette découverte, je pense, pour pas mal d'entre nous, même si vous le connaissez évidemment tout le travail, on va partir peut-être à continuer cette découverte, en tout cas de cet artiste et du rapport particulier, je pense que vous avez depuis longtemps, enfin, sur l'inspiration, l'animation.
J'ai commencé par choisir deux portraits de Lionel Feininger, un très jeune, assez dandy, et un plus grave, plus âgé, peut-être deux versants, deux pôles, deux personnages, dont on peut dire ironiquement qu'il a disparu l'année où il est l'un et l'autre. Feininger est mort en 1956, François comme moi, nous sommes nés en 1956. Donc les passages directs sont réduits, nous avons peu eu l'occasion de subir son influence pure, et pourtant, il fait partie de ces artistes qui nous passionnent, et je crois que François le connaît depuis très très longtemps, mais pour certains volets de son œuvre, qui sont peut-être moins mis en valeur, non seulement dans cette exposition, mais dans le discours actuel sur Feininger.
C'est évidemment pour les bandes dessinées, je suis entré dans l'œuvre de Feininger par ces bandes dessinées, c'est un contemporain de Louis Sabaté, qui est un artiste qui est évidemment pour moi un contemporain de l'histoire. Et ce qui est très très beau dans son travail d'auteur de bande dessinée, très courte, c'est la liberté, l'audace, la façon dont il ouvre les portes, il y a des dimensions très poétiques, il y a une confiance dans le dessin, dans le graphisme, une audace qui prend des moments de grâce dans l'histoire de la bande dessinée, mais quelques moments comme ça où tout était possible. Il faut dire que les journaux, à ce moment-là, aux États-Unis, se permettent la couleur. Donc il faut vous imaginer la place que prennent ces images dans les journaux qui étaient à l'époque avant. C'est très noir et blanc. Brusquement, la couleur explose et ils font appel à des artistes comme Maquet et d'autres, et comme Feininger, pour explorer cette dimension du papier.
Ce qui est extraordinaire, c'est que Feininger n'est pas un jeune artiste à ce moment-là. L'essentiel de son œuvre de bande dessinée, et donc notamment la série de Kinder Kids, où on retrouve à la fois l'anglais et l'allemand, hein, Kinder, les enfants, et Kids, c'est aussi des enfants, donc c'est vraiment la double origine, la double nature de Feininger. Et cette série, donc en 1906-1907, vient à un moment où il y a déjà une œuvre importante de caricaturistes, de dessinateurs, de peintres. Certains des dessins qu'on a vus dans l'exposition d'âge de ces années-là, donc sont antérieurs. Et donc, il n'y a pas du tout l'idée que ce serait un simple début, un vestibule de l'œuvre, un préambule d'un jeune artiste qui se cherche. Et cette dimension de caricature, cette dimension de plasticité, elle est extraordinairement proche de tout ce qu'on va voir dans le reste de l'œuvre. Or, par une très étrange séparation dans l'histoire de l'art, beaucoup de gens qui connaissent l'histoire de la bande dessinée connaissent Feininger, extraordinairement célèbre comme auteur de BD, et savent à peine qu'il a fait la peinture. Et beaucoup de gens, 90% des gens qui sont du côté des arts plastiques, ne connaissent pas ou dédaignent ou considèrent comme une incursion mineure, un péché de jeunesse, ces planches qui sont absolument remarquables et passionnantes, qui étaient des très grandes pages dans les journaux, les seules des pages sur les pages du dimanche, et on sent qu'il y a consacré beaucoup d'amour et de soin, et que ce n'est pas du tout quelque chose qu'il aurait fait comme une queue comme moi.
Ce qui est très beau aussi, c'est de voir comment il occupe la page et il évite les tensions, les rapports au trait. Il y a tout ce qu'on découvre aussi dans notre exposition sont aussi présents dans cette planche de bande dessinée.
Alors, donc, la série Les Kinder Kids, dont je montre quelques exemples, pas toutes les pages, c'est la plus connue, mais ce n'est pas la seule, il y en a une autre la même année, et donc la bande dessinée n'est pas du tout une activité accidentelle ou ponctuelle. C'est d'autant plus remarquable que Feininger, même s'il est né à New York, qui est un foyer de la bande dessinée dans ces années-là, vit en Allemagne au moment où il produit ses planches. Donc c'est un des cas de collaboration très très intéressant entre la bande dessinée européenne qui s'était développée tout au long du 19e siècle, depuis le fer vers 1830, Busch en Allemagne qui a une très très grande importance et que certainement Feininger a lu étant enfant, et d'autres dessinateurs qui sont aussi des immigrés. Donc on croit parfois que la bande dessinée est née aux États-Unis, en réalité on s'aperçoit que c'est une histoire européenne et américaine indissociable. également.
Rossi travaille de couleur, qui est très étonnant, parce que, en réalité, les machines qui utilisent les grands journaux américains n'ont pas tant de possibilités. Et Mackay d'apparaître avec des tons assez forts, des couleurs très, très extraordinaires. Et en fait, ils font les couleurs par superposition de travail, c'est une technique très particulière.
C'est conçu pour l'imprimer, en fait. Ils vont travailler avec les ouvriers qui sont aux machines.
Voilà, c'est eux vraiment qui produisent la technique pour mettre la couleur. Et ça produit quelque chose de très étonnant en mariage avec le papier. Les originaux qui utilisent ce papier journal restent très, très beaux pour ça aussi.
Vous sentez évidemment que ceux qui soucient d'abord Feininger, comme plusieurs auteurs de l'époque, c'est ce que vous pouvez appeler la page comme un hypercadre, comme une image globale, plus forte que les images qui la composent, et ça joue dans le lettrage du titre, dans la composition globale de la page, mais même dans ces petites sutures et petits rectangles de couleurs qu'on voit ici, entre deux pages, la manière vraiment de traiter la page comme une image globale. Ici, c'est très étonnant, puisqu'on a à la fois la division en cases, et à l'intérieur même de la case, par le jeu des fenêtres, une sorte de mise en abyme supplémentaire de la bande dessinée. Donc c'est déjà une expression très sophistiquée, qui ne repose pas beaucoup sur la continuité d'une page à l'autre, même s'il y a une certaine continuité narrative, mais qui repose surtout sur l'effet choc que ces pages très grandes devaient avoir sur le lecteur qui les découvrait. Alors une chose amusante aussi, c'est que Feininger, toute sa vie, a produit des petites figurines, des petits objets, il faisait vivre en trois dimensions cet univers. On verra avec Vincent Maquet, créateur de la même époque, que lui aussi prolonge son univers dans d'autres médias. Et puis donc ici, une autre série, un petit peu moins connue, on pourrait dire le World Wide Web de l'époque, puisque là c'est une série avec 4 W dans le titre. On a vu qu'il est très belle aussi. Vous voyez que c'est vraiment un travail très investi graphiquement, très fort plastiquement, et que vraiment l'histoire de l'art digne de ce nom doit intégrer le travail bande dessinée de Feininger, mais que l'histoire de la BD doit aussi savoir que bien avant que d'autres artistes et autres, Feininger a été un vrai dessinateur, un vrai peintre, et donc que cette œuvre est tout à fait compliquée.
Il y a une très très grande modernité dans l'espace, dans le trait, dans la couleur, dans le traitement. C'est pour ça que je crois que c'est une œuvre qui influence encore autant les jeunes auteurs, parce que c'est très rare de voir cet artiste aussi audacieux sur un support qui est aussi colossal. Le journal, à ce moment-là, accueille des œuvres tellement originales.
Et c'est vrai que la bande dessinée, c'est un art qui est à la fois narratif et plastique. Et on sent très bien que c'est une époque où, dans des supports populaires, on accepte que la dimension plastique soit presque première. Il faut se souvenir que beaucoup des lecteurs de journaux américains au début du XXe siècle ne sont pas très lettrés. Et que donc l'image est une façon de les faire entrer dans le journal. Et que le choc de la couleur, de la composition, de l'immédiateté sont une invite à lire d'autres aspects du journal. Et c'est vrai que la bande dessinée est toujours un petit peu oscillée entre ses pôles. Il y a des œuvres où la narration est fondamentale. Si on les met sur le mur, elles n'ont pas de force graphique. Il y a des œuvres qui, quand on les combine à un livre, perdent un petit peu de leur puissance. Il est certain que chez Feininger, il ne renonce pas du tout à être un artiste plasticien en pratiquant la bande dessinée.
Mais il faut dire donc que quand ces grands éditeurs de journaux américains achètent ces machines, parce que souvent il y a des machines qui peuvent mettre de la couleur, au départ, ils pensent mettre des tableaux, mettre des grands tableaux, mettre des tableaux de l'art de Vinci, des choses qui pourraient éduquer le public. Mais ils voient que la Joconde, ce papier journal, c'est pas terrible. Alors ils se disent, on va plutôt agir autrement, on va demander à nos artistes de travailler en tenant compte de la technique et des moyens que nous pouvons leur donner aujourd'hui. Et c'est ce qui va donner cet élan de la bande dessinée.
Donc ce qui est très important de comprendre par-delà ces pages superbes qui ont été éditées, on trouve des éditions des œuvres de bande dessinée de Feininger en grand format.
Nous regardons dans l'espace pédagogique de l'exposition si vous voulez prêter un exemplaire de l'une de ces éditions.
Ce qui permet d'entrer dans les pages et de les lire parce qu'il y a beaucoup de détails devant chaque. chef de l'État. Ce qui est très important de comprendre, c'est que c'est vraiment un mouvement. Ici, je montre des images d'un très célèbre patron de presse de l'époque. On connaît son nom, du moins son visage, c'est William Randolph Hearst. Hearst, c'est celui qui va inspirer Citizen Kane dans son monde, et qui est en conflit permanent avec Joseph Pulitzer. Pulitzer, c'est celui qui donne son nom au prix Pulitzer. Et ces deux personnages sont extrêmement célèbres, extrêmement importants, et dans une guerre permanente pendant des années. Toute leur carrière, en fait, ce sont des contemporains, chacun possède des journaux, à New York et à New York, et ils s'arrachent les dessinateurs. Parce que ces dessinateurs sont comme des journalistes, peut-être, comme des grands romanciers, comme des grands reporters.
Ce sont des stars.
Ce sont des stars. Et donc, se piquer des dessinateurs, c'est une façon d'acquérir un public. Et donc, ici, vous voyez un exemple de cette page, c'est complètement sidérant, le rapport entre le développement de la ville, ce qu'est la grande ville américaine, ce qu'est la construction, et ce qu'est la grande page du journal. On sent très bien l'esprit, l'élan vers une nouvelle culture, vers une nouvelle modernité, et que cette bande dessinée naissante est une des façons peut-être de dire ce monde-là à ce public-là. Donc il y a une expansion très importante, je vais la situer en deux, trois mots, parce qu'on pourrait passer toute la rencontre sur la naissance de la bande dessinée américaine, mais c'est donc d'abord ce jeu avec la page. La page, elle est vraiment très grande, ça n'a rien à voir avec nos albums de bande dessinée contemporains, c'est plutôt des pages de 30 à 40, des pages qu'on déplie le dimanche pour les suppléments du week-end, et ça commence avec le Yellow Kid, qui n'est pas vraiment une bande dessinée.
Ça a un impact considérable aussi pour les enfants, plongés dans le format et dans la couleur. Vous voyez que c'est un double champ.
Alors, ce petit personnage du Yellow Kid, ce gamin des patrons de New York, il a son vêtement toujours en fond jaune, un jaune de couleur pure, quasi sportif, et il porte le texte sur son vêtement. Donc au début, on est plus proche du texte illustré ou du tableau complexe composite. Mais peu à peu, Auto, le dessinateur, va évoluer vers la forme de la bande dessinée moderne. Ici, on a une page de transition tout à fait remarquable et vraiment célébrée par les historiens, où il reste à la fois du texte sur le vêtement du Yellow Kid, mais en même temps, la bulle va apparaître. La bulle avait existé dans d'autres époques, mais dans la bande dessinée américaine avant Colin, voilà. Et la bulle sort d'abord du phonographe. C'est une voix mécanique. Et puis, c'est la voix d'un perroquet. Mais le procédé a tellement de succès que rapidement, le Yellow Kid lui-même se met à émettre des bulles. Donc là aussi, c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que cette bande dessinée autour de 1895-1896 joue avec les technologies. Joue avec la technologie du son, de l'enregistrement du son, art mécanique, mais va jouer aussi avec la technologie du cinéma naissant. Et donc le succès immense du Yellow Kid, qui devient vraiment un personnage très très populaire, qui est reproduit sous forme d'images, qui a des spectacles, des comédies musicales, ça crée une émulation, et notamment un thème qui est là, Yellow Kid, c'est le Kid of Kids du Fanninger, et on va voir les quatre sonnets de Pierce, et donc qui est aussi un artiste d'origine allemande, et ce sont des gamins turbulents, des gamins qui font des bêtises, qui s'approprient le quotidien, mais qui peut-être défont un peu le sérieux du journal. Et alors, Winsor Maquet, là je vais te laisser en parler un petit peu, il est un génie qui est une de nos plus grandes admirations, et un contemporain exact de famille.
C'est le maître absolu. On prépare une exposition sur lui parce qu'on aime tellement qu'on avait envie de partager ça à chaque fois. Et donc, ce qui est passionnant chez Maquet, c'est un remarquable dessinateur. Il va s'emparer de la bande dessinée avec un talent, une grâce extraordinaire, avec le format également de cette page. Là, on le voit avec son petit fils.
Il réalise Robert Maquet, qui sera à 6 ans le modèle. Petit Little Nemo, donc là on voit plusieurs dessinateurs, une mise en scène publicitaire, et donc le Nemo devient un des personnages les plus populaires de l'époque. Donc quand Feininger pratique la bande dessinée en 1906, Nemo existe déjà depuis un an, l'occupation de la page où ils sont marqués, déjà quelque chose qui existait. Voilà, c'est un artiste auquel il se confronte.
Ça va plus être un artiste, je crois qu'il va être une vedette grâce au dessin de son père, grâce au fait que son père va en faire un héros, et va l'exhiber un moment donné comme le personnage vivant de cette bande dessinée. Il va aller même beaucoup plus loin, parce que ça va faire dans les films, il va être le premier dessinateur à faire de dessin animé, il va pouvoir créer le genre de dessin animé, donc il est à la création de la bande dessinée, à la création du dessin animé, et il va aussi faire le spectacle, il mélangera les deux. C'est vraiment un phénomène extraordinaire, contemporain de l'univers, et c'est intéressant de resituer, c'est de voir la créativité et voir comment les arts se croisent. Parce que c'est là aussi où Mackey est proche de Fellinger, c'est que Fellinger est quelqu'un qui fait de la gravure, de la peinture sur bois, de la peinture, qui fait du dessin, de l'aquarelle, il a une palette extraordinaire, mais il fait aussi de la photographie. Il va avoir un fils qui est devenu un très célèbre photographe, on va apprécier énormément de travail. Et Mackey a comme ça une façon d'explorer tous les médiums, tous les médias de son temps, qui est presque aussi un cas d'école.
Alors, chose extraordinaire, les planches de Fellinger paraissent essentiellement de Chicago Tribune. Or, Winston Mackey, lui, est de Chicago. Et il a été extrêmement marqué par l'architecture de Chicago. Et le monde imaginaire qu'il décrit dans les pages de Nicole Nemo, le monde de Club Normal, est très inspiré de l'exposition universelle de Chicago. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de passerelles. Ce sont des artistes qui se sont vus, qui se sont observés à distance. Fellinger est à l'époque en Europe, mais certainement il reçoit ses journaux avant de produire pour ses journaux. Bon, la maîtrise de la planche de chez Vincent Lafay reste quelque chose d'extraordinaire. Chaque page est une invention et chaque page est bien plus que la somme de ses images. Elle est d'abord une dynamique, une image de l'homme.
Oui, donc c'est vraiment un peu le chef-d'œuvre de la bande dessinée qui arrive très très vite. C'est sans doute un auteur qui reste incontournable. Il y en a quelques heures pendant. Dans les arts, celui-là, pour la bande déjà un sommet. Et Cévès, qui est là aussi, il y a une liberté dans la composition, dans la mise en scène, et vous voyez, il se permet des choses hallucinantes.
La page est intelligible, presque sans la lire. Il y a une évidence, et en même temps, on a le sentiment que quand on feuilletait ces suppléments du dimanche, qui étaient très riches, il y avait un peu une guerre des pattes entre les dessinateurs. Voilà, je vais faire une page. Les gens vont rester. Il faut imaginer qu'on s'adresse à la fois à un public d'adultes, à un public d'enfants, et que ces pages de très grand format doivent produire un effet de fascination. On a du mal aujourd'hui, les éditions récentes qui sont très bonnes, mais on a du mal à retrouver cette magie, parce que c'était d'abord une magie de la publication hebdomadaire. La page est une surprise. Alors bien sûr, il y a des enchaînements dans certaines séquences, mais c'est d'abord cet éblouissement.
Il faut dire que Mackey est un virtuose, c'est un dessinateur qui faisait des spectacles de dessin. Il arrivait, il pouvait dessiner sans crayonner les personnages. Donc déjà, on le regardait comme un objet de foire. Il a d'ailleurs beaucoup participé à des tournées qui étaient très proches du spectacle forain.
Et d'ailleurs là, on le voit dans un effet très très proche de la scène. On est dans un monde très peuplé, une sorte de monde forain, et puis case après case, il s'amuse faire disparaître les éléments du décor comme un illusionniste. On est aussi un peu dans l'époque de Méliès, les spectacles, le souvenir des spectacles de Robert Houdin, toutes ces choses, tout ce jeu sous la magie. Et donc il fait disparaître jusqu'à la case même qui le contient pour, comme à la fin de chaque page de Little Nemo et Little Mermaid, se réveiller. Chaque page est un rêve et chaque dernière case, c'est une chute, mais une chute souvent au sens propre, puisque le petit Nemo est tombé de son lit, dans son rêve, l'a secoué. Et ajouter. C'est une intelligence très profonde du contexte de publication, puisque c'est vraiment donné, on peut dire, au petit matin, au lecteur qui sort son journal de sous la porte, comme un rappel de la nuit, et en même temps comme une sensation suffisante. Si on n'a pas lu l'épisode avant, on peut quand même percevoir toute cette magie. Je n'en manque que quelques-unes.
Le jeu sur le texte ici, ça. Il faut vous dire que chaque titre est redessiné, donc Little Nemo et Little Mermaid, mais chaque fois l'occasion, le titre d'une espèce de jeu de typographie étonnant, inscrit dans les cases elles-mêmes, mais en plus ici, il y a un jeu sous la typographie qui occupe toute la page.
Ils sont sur la planète Mars, et malheureusement, sur la planète Mars, les mots sont à grand, tout l'espace est envahi par la publicité, ce qui est assez remarquablement prémonitoire, notamment de la société américaine, et donc tout étant à vendre, la planète est invisible, les mots ont tout caché. Mais en même temps, ce qui est formidable, c'est que chez Mackey, comme chez tous les grands auteurs de bande dessinée, le texte n'est pas refoulé comme un élément secondaire, comme un élément qui habille, il structure profondément la page, et bien évidemment, si vous enleviez les textes dans une page de Vincent Mackey, elle serait moins belle.
De
De la même façon, regardez dans vos pages, dans notre travail, le texte est toujours là. Dès le début, François entre le texte et quand on expose une page, on ne conçoit pas de l'exposer sans le texte. C'est une tendance qui a parfois dans la bande dessinée d'aujourd'hui pour se rapprocher des arts plastiques et qui nous paraît une tendance un petit peu dommageable puisque le médium abdique d'une partie de sa singularité de son écriture. Voilà, c'est comme si on dit un film sera plus esthétique si on le projette sans la bande son. C'est une idée un petit peu humaine.
La page est magnifique. Le lit devient une espèce de personnage, de fantôme, ça, où les pieds du lit s'arrêtent magnifiquement. C'est vraiment la page, je dirais, emblématique du talent de Macri.
Avec ce jeu admirable, évidemment, entre la dernière case, qu'on connaît toujours, qui compte le lit, mais qui devient aussi le point de départ de la première. Donc, entre la première et la dernière case, il n'y a qu'une infime différence et tout le reste. Ce peuple, c'est aussi un hommage à l'architecture américaine qui se développe à la même époque et dont les gens comme Feininger et Paul Mackey sont passionnés par cette architecture, par le graphisme de l'architecture et l'intègrent directement à leur dessin. C'est un dessin qui est exempt de nostalgie. Aujourd'hui, parfois, nous le regardons presque avec nostalgie. Mais pour eux, c'est vraiment la contemporanéité qu'ils font entrer dans leur image.
Il faut dire qu'il a vu l'exposition de l'Université de Chicago se faire dans des délais absolument extraordinaires. Ils ont fait un tour de force en quelques mois. Ils ont fait surgir dans un lieu qui est une espèce d'ensemble de palais fait à base de stuc. Il y a là quelque chose de magique qui est certainement profondément influencé.
Puis c'est le monde des parcs forains dans lesquels il a démarré sa carrière, c'est le monde de Coney Island, c'est tout ce monde entre réel et imaginaire, au fond de la scénographie avant la lettre, et ça, ce sont des éléments très importants. Alors, Viggo Nemo, extrêmement célèbre, est adapté en comédie musicale, comme François l'a dit, Mackey monte lui-même des spectacles, et puis est l'un des créateurs du dessin animé, notamment avec Gertie le dinosaure, et c'est une vedette énorme à l'époque. On a un peu oublié ça, parce que son art était éphémère, par exemple, les dessins animés, il est présent lui-même sur scène, il joue avec l'écran.
Il y a le dernier dinosaure qui apparaît sur l'écran. Déjà, pour apparaître un dinosaure sur l'écran, il faut imaginer que beaucoup de spectateurs ne comprennent pas ce qu'ils voient. Ils ne sont pas habitués à des représentations dynamiques de personnages comme un dinosaure. Donc, ils sont très troublés, fascinés. Et Mackey approche une banane du dinosaure, de la bouche du dinosaure, et il la fait disparaître en même temps que le dinosaure l'avale. Donc, il y a du travail de prestigitateur. Il y a du travail qui appartient un peu à la magie. Il y a l'occupation de la scène. Il se préoccupe de qu'est-ce que c'est la scène. Il travaille avec de la musique, avec de la lumière, avec du dessin animé et avec sa propre personne. C'était un petit monsieur, quand même une très grosse dame, qui dépensait tout.
Oui. Et un fils indigne qui a massacré ses planches après sa mort. Voilà. Il a dessiné lui jusqu'à sa mort, pendant que sa femme dépensait ce qu'il s'est vertué. C'est pas misogyne, hein, c'est comme ça. Ça ressemble à un dessin du bout, oui. Mais on voit un petit monsieur.
Il y a un petit monsieur, mais qui travaillait énormément, dessiné de manière soi.
Il aurait peut-être moins dessiné si sa femme avait été moins dépensière.
Parce que l'hypothèse est très difficile. Ce qui est très beau, c'est qu'il avait tellement de talent. Moi, j'ai une planche de lui, on voit même pas la trace d'un pionnier là-dessus. Il doit avoir quelques lignes à peine esquissées. Il a vraiment un talent pour tout de suite faire avancer son dessin sur le papier.
Alors, on n'a pas évoqué toute la bande dessinée américaine de cette époque, mais juste montrer en quelques instants d'autres artistes majeurs, comme Harry Mann, qui a fait Crazy Cat, aussi une série sublime, qui s'est développée très très longtemps, qui a fait cette espèce d'audace très avant-gardiste et qui pourtant a réussi à se maintenir. Dans les journaux, notamment, parce que William Walter l'adorait, le président des États-Unis, le président Wilson l'adorait aussi. Oh, chaque fois qu'il était question de Picasso, chaque fois qu'il y a des questions de supprimer cette série, il y avait des gens qui la défendaient.
Une très 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 étrange série, très très originale, à un humour très spécial, vraiment.
Des textes assez difficiles à traduire, mais des pages qui sont aussi un enchantement.
Extraordinaire. Un moment où on a là l'impression aussi que l'auteur peut tout se mettre. Et il est protégé évidemment par Randolph Hearst, mais quand même, il y a quelque chose qui tient à un moment de grâce.
Une autre série passionnante qui s'est développée très très longtemps, c'est Gasoline Alley de Frank King, peut-être
montre juste trois pages, et vous allez voir un effet tout à fait saisissant, c'est que les trois pages sont construites sur le même schéma, en losange, et que ça n'empêche pas le dessinateur de développer à chaque fois des récits qui à la fois sont évidemment continus, donc se lisent de gauche à droite et de gauche en bas, mais en même temps forment cette image graphique et cette lecture pleine de paradoxes. Donc c'est très étrange parce qu'après on va avoir l'image de la bande dessinée américaine assez liée aux super-héros, Superman, Batman, etc., tous ces petits fascicules un peu cheap, et qu'on oubliera que, notamment avant la Première Guerre mondiale, il y a eu cette floraison d'œuvres franches de l'avant-garde, par certains côtés d'œuvres futuristes, qui existaient dans des supports populaires, quand ils n'étaient pas une bande dessinée élitiste, et que c'était un moment que peut-être la bande dessinée a mis 50 ou 60 ou 70 ans à redécouvrir. Et que les auteurs d'aujourd'hui, quand ils sont retombés sur ces œuvres-là, un auteur américain comme Gisler, notre auteur Robert Schuttelmann, ont été émerveillés et ont permis de relire ce patrimoine et de le faire découvrir ou redécouvrir aux Européens. C'est comme si cette bande dessinée-là, qui était liée à la presse, avait vraiment disparu corps et bien pendant des décennies. On s'était fait une idée un petit peu stéréotypée de la bande dessinée américaine, même s'il y a d'autres chefs-d'œuvre, évidemment, la bande dessinée d'aventure, évidemment. Mais qu'aujourd'hui, beaucoup d'auteurs de bande dessinée se sentent vraiment dans la continuité directe, et qu'il s'agisse d'auteurs européens ou d'auteurs américains, se sentent dans la continuité directe de ces très très grands auteurs, parmi lesquels Fanninger.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment ces auteurs se donnent des contraintes graphiques sur la page, toujours, et qu'il est les pousse à aller encore plus loin dans la narration, parce qu'il doit évidemment résoudre un problème très particulier pour que chaque case puisse faire avancer l'histoire. Il y avait un dessinateur américain aussi qui avait imaginé une contrainte absolument démente, c'est que vous regardiez une planche et vous la retourniez, vous avez la suite.
Gustave Herbet, qui était un dessinateur d'origine belge, ayant grandi au Japon et ayant développé son œuvre aux États-Unis. Et donc, vraiment, il est passé d'un système de lecture, bon, déjà passé du belge, mais après aux États-Unis, donc il est peut-être à retourner les choses dans plusieurs sens, peut-être est-il aussi avec son nom bilingue français, je ne sais pas. Mais en tout cas, Verdet faisait ses bandes dessinées qui se retournaient, le lecteur retourne la
page de l'image,
donc se transforme.
Oui, on pouvait les voir dans un sens comme dans l'autre, qui était tout à fait bizarre, il y avait des drôles de chapeaux et des drôles de pieds, mais ça marchait. Et ça rendait vraiment les histoires très étranges, parce qu'il fallait vraiment repasser par les mêmes cases, mais les recomprendre. Donc ça vous montre un petit peu quelle liberté et en même temps quelle incroyable contrainte ces dessinateurs s'imposent.
Alors j'ai mis un petit noir, que comme nous allons passer à notre travail, on crée un petit sas de sécurité, quelques décennies passent, et puis beaucoup de talent entre les deux, beaucoup de grands auteurs en France, en Belgique, aux États-Unis, et puis bon voilà.
Merci, j'arrête ce premier voyage. Je pense que Marie, vous avez peut-être resté encore un tout petit moment avec Fanny Guerre et une autre question sur le lien toujours d'inspiration avec le travail de nos deux.
Dans tout ce que vous venez de dire, il y a déjà énormément de choses que j'avais pu pressentir et sur lesquelles j'aimerais faire revenir. Il y a par exemple cette idée que Léa Fanninger est un artiste multicasquette, vous avez parlé du graveur, du peintre, oui, il a été aussi musicien, il a composé notamment des flûtes pour orgue, il a fait de la photographie. Dans l'exposition aussi, on en présente essentiellement une œuvre graphique, notamment des bois gravés. Et est-ce que l'un et l'autre, cet univers dont on voit la filiation avec les premiers dessins qui sont présentés dans l'exposition, et donc aussi avec l'univers de bande dessinée, et en même temps les différences, puisqu'il s'éloigne à un moment donné de ce trait dont vous parlez, est-ce que cet univers des bois gravés peut être aussi une source d'inspiration pour vous?
Oui, en fait, ce qui est une source d'inspiration, comme un clé pour un clé, je dirais, c'est l'évolution d'un artiste, voir comment il cherche, comment il creuse, comment il réinvente son écriture, comment il s'impose des contraintes, des techniques, voilà, comment il les appréhende. Ça, c'est évidemment ce qu'on, quand on est dessinateur, ce qui nous touche. C'est, il a essayé ça, et comment, avec sa sensibilité, il travaille dans cet esprit. Moi, ce qui me passionne chez Fanninger, justement, c'est qu'il a été dans la bande dessinée, donc évidemment, ça me rapproche, je vois à quel point il est talentueux, et en même temps, à chaque fois, comment il revient aussi, toujours entre une forme d'abstraction. d'abstraction, une forme de réalisme, mais aussi entre les deux, on sent que ça le titille, et en même temps, il y a des boucles chez lui. Il revient à des formes d'expression qu'il a commencé. C'est pas, il n'y a pas de rupture aussi franche qu'on pourrait croire. Chez Maquet, c'est la même chose. Maquet a des contours d'histoire, il le fait avec la bande dessinée, il le fera avec le cinéma, avec le dessin animé, avec ses spectacles, mais il le fera aussi même dans ses grandes illustrations pour Randolph Hearst, qui a acheté, c'est une drôle d'histoire, Randolph Hearst va considérer qu'il le veut pour lui, et il lui fait un chèque suffisamment important, pour madame, sans doute aussi, que je vais dire. Et donc, le parcours nous passionne.
Ce qui me semble aussi frappant, c'est que pendant longtemps, les techniques graphiques utilisées par la bande dessinée excluaient un certain nombre d'expérimentations. Autant qu'elles se permettent de l'expérimentation dans la composition de la page du récit, autant plastiquement, le crayon, la couleur directe ou la gravure étaient des choses difficiles. Or, quand on regarde un certain nombre d'auteurs d'aujourd'hui, de penser à Manotti par exemple, qui est illustrateur, affichiste, peintre, en même temps, auteur de BD, mais on peut penser aussi à certains auteurs belges contemporains plutôt du côté de l'avant-garde, parlait tout à l'heure de Olivier Depré, qui est quelqu'un qui pratique la gravure. Et quand il pratique la gravure, il reprend des éléments à la bande dessinée, c'est-à-dire une certaine séquentialité, une certaine continuité entre les gravures qui peuvent former un récit, qui peuvent s'accompagner de texte, mais en même temps, il y a une franchise dans le traitement que la bande dessinée n'aurait pas pu avoir. Ce sont des auteurs aussi, ce groupe de Frémog, mais d'autres groupes un peu partout en Europe, ce sont aussi des gens qui jouent entre la bande dessinée concrète et le travail mural, voire le travail de plasticien, voire le travail d'artiste de spectacle. Donc on peut concevoir de lier le dessin à la danse, de lier le dessin à du décor de scène, à de l'installation plastique vidéo, etc. Et donc là aussi, on retrouve ces artistes. Finalement, du tournant 19e-20e siècle, à la fin du 20e siècle et au début du 21e, on retrouve les mêmes enjeux. D'abord, on est capable de reproduire un type de dessin qu'on reproduisait beaucoup plus difficilement à l'époque. On s'autorise une variété de formats qui, pendant longtemps, n'a pas été le cas dans la bande dessinée.
On avait l'impression que la bande dessinée était vouée au format album classique, au format A4. On s'aperçoit que la bande dessinée peut revenir à des livres plus petits,
peut revenir à des techniques d'impression tout à fait différentes, et peut revenir aussi forme d'expression beaucoup plus grande. Et donc là, c'est intéressant de sentir, dans le travail non bande dessinée de Feininger, comme certaines choses peuvent passionner les auteurs d'aujourd'hui. Malheureusement, dans les textes, et je dirais dans l'histoire de l'art, dans le regard qui portait sur le média, le travail n'a pas encore été fait. Si je peux me permettre une petite critique, je suis surpris de voir, par exemple, qu'à l'entrée de l'exposition Feininger, quand on a la biographie, en l'année 1906, on ne mentionne pas qu'il y a deux séries de bandes dessinées majeures. C'est bizarre, c'est comme si c'était secondaire. Ben, je pense qu'on aura gagné un combat quand on aura montré que dans un musée voué aux arts plastiques, ça valait la peine de le dire, de ne pas le refouler. Mais de la même façon, c'est important aussi que dans les milieux de bandes dessinées qui sont à trois et trois, on montre. À une époque, il y avait des gens qui disaient « Ah oui, ce que vous faites, c'est très beau, mais c'est pas vraiment de la bande dessinée. » Eh bien, si, c'est vraiment de la bande dessinée. Ce qu'on fait, c'est vraiment de la bande dessinée. Et il y a des gens qui ont été beaucoup plus loin de nous, beaucoup plus avant-gardistes que nous, et qui sont aussi de la bande dessinée. Simplement, il faut lui donner une définition ouverte, une définition créative, et ne pas se dire qu'il y a un mur entre le dessin, la caricature, la bande dessinée, la peinture, l'installation. Il n'y a pas de mur, il y a des glissements. Et la seule chose qui compte, finalement, c'est la rigueur. Talent dans la pratique de chacun de ces arts. Même Picasso a pratiqué la caricature et furtivement la bande dessinée.
Pour revenir justement à ces glissements et rester encore un petit peu sur la gravure, on voit un Feininger travailler en bande dessinée avec la couleur, investir le champ de la couleur et puis s'autoriser cette fameuse gravure qui sont exposées ici des années 1910-1920 à un traitement de l'image en noir et blanc. Vous parlez tout à l'heure de creux. De plein, de ville et de plein. Le noir et blanc est assez présent dans votre travail. Comment est-ce que c'est fantastique que se produise à ce moment-là Lionel Feininger aux possibilités que lui offre la gravure, puisque la gravure en couleur, c'est possible, évidemment.
Oui, mais c'est évidemment ça que j'ai adoré dans cette exposition, c'est justement sur la grâce de ce point. Il le gagne, c'est lui le blanc du bois, parce que c'est la fin de vie. Il doit faire le noir, c'est moins de travail. Il coûte quelques petites lignes blanches qui peuvent venir, mais là, il doit faire son blanc. Ça change complètement la notion du blanc et du noir quand vous devez le fabriquer, ce blanc. Vous devez, c'est très dur, hein, c'est une technique qui demande une maîtrise et, très particulière. Et c'est ça qui est très amusant à penser, c'est qu'une ligne noire. En train de se croire, ben, c'est ce qui reste. Mais à côté, il faut avoir gagné le blanc. Et le blanc, d'ailleurs, qui est plein de tâches, qui est plein de matière, qui est encore nourri de toute une série. Ce qui fait, d'ailleurs, que quand il fait du trait à la plume, parfois il y avait des petits points, comme pour garder un effet de ces impertinences, de ces petits effets de scories de la gravure sur bois. Le passage d'une technique à l'autre est vraiment très intéressant chez Feininger, parce qu'on sent qu'il se nourrit de l'un et de l'autre. En essayant d'aller avec de l'aquarelle sur de la plume, en faisant de l'eau forte sur sa gravure, il est tout le temps en train comme ça de chercher, de creuser son art.
On évoquait entre nous tout à l'heure un autre champ qu'il a exploré là encore en noir et blanc, c'est la photographie. Ça va me permettre de faire une petite transition vers quelque chose sur lequel j'aimerais vous entendre. En 1928-1929, Feininger est appelé à Malheur pour répondre à une commande de tableaux. Il photographie Malheur, il déambule dans Malheur à ce moment-là, à peu près à la même époque qu'il s'exerce aussi à la photographie à Dessau. Et dans ces deux séries, on a quelqu'un qui met en pratique un regard quasiment d'architecte. En tout cas, il semble qu'il y a, et vous l'évoquez, hein, il y a tout un flou, tout un terrain autour de l'architecture, un regard sur l'architecture, une appréhension de l'espace, qui moi me semble un point commun aussi avec votre travail, qui trouve aussi une certaine expression dans ce qu'on a vu là-haut.
Oui, c'est tout à fait vrai, ce qui est beau chez lui, c'est le rapport à l'espace, c'est comment l'architecture, il a une façon de l'interpréter. L'espace marin, les marines sont très très belles, la façon de tous les bateaux. Et de voir comment il interprète tout ça, c'est une conscience de l'espace. Mais pour revenir un petit peu à ce que je demande, ce que je trouve un peu frappant dans cette exposition, c'est que si on connaît si mal l'œuvre de Leonhard Feininger, c'est que justement, sans doute, il n'est pas un artiste qui s'est contenté d'une seule fois. Il n'a pas cherché à essayer de synthétiser son œuvre en une formule. Il a été un explorateur des techniques et de son temps. En plus, un explorateur, un voyageur, il était vraiment entre l'Allemagne et les États-Unis. Et c'est ce qui est un petit peu parfois décevant dans notre monde, c'est que quand on n'a pas cette étiquette, cette personnalisation, cette espèce d'évidence, alors on échappe un petit peu. On est entre le fil de l'histoire et on fait la notoriété.
De la même façon, il y a chez lui ce rapport entre son début et un bout de l'anecdote du détail. Un cheminement clairement figuratif et des moments, soit qui touchent à l'attraction, soit qui sont vraiment, mais pas dans ce sens un peu naïf d'une vision de l'art moderne, qui verrait une sorte de progrès. Vous savez un petit peu ce qu'on dit sur Mondrian, il commence figuratif et puis il simplifie, enfin ce qu'on dit aussi, et puis ça y est, il a l'attraction, et puis il est dans la figure, enfin, comme si il avait monté un escalier, qui serait l'escalier de la modernité. Mais ça reste aussi. Voilà. Et nous avons aujourd'hui, d'abord sur l'histoire de la peinture au XXe siècle, est beaucoup plus compliqué que ça, pas comme Bacon ou Balthus, dont on ne peut pas se débarrasser sous prétexte qu'ils n'ont pas fait ce pas, mais ensuite que chez plusieurs artistes, et particulièrement chez Feininger, ce n'est pas du tout linéaire. Il peut aller vers l'abstraction, mais revenir vers la figuration sans régresser. Et là aussi, c'est dans cette impureté-là que je crois qu'il reste beaucoup de choses à penser. Nous avons été un petit peu trop habitués à penser les courants artistiques comme si chacun préparait l'autre. Hein, Courbet ouvre la voie à Monet, qui va ouvrir la voie à Cézanne, qui va aller vers les cubistes, et donc chacun a un petit peu repris l'héritage du passé, mais l'a dépassé. Et je pense qu'un artiste comme Feininger, et d'autres artistes du XXe siècle, dépassent complètement cette problématique-là. il est temps que nous délinéarisions un petit peu l'histoire de l'art et à cette occasion-là qu'on y fasse rentrer des morceaux de la photo, des morceaux du dessin d'architecture, des morceaux du dessin de bande dessinée ou de caricature, parce qu'ils appartiennent pas au grand chemin, mais ils ont irrigué, ils ont transformé, on en parlait tout à l'heure, aussi des rapports entre peinture et photographie tout au long du 19e siècle, etc. Si on raconte ces deux histoires de manière tout à fait séparée, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Et je crois qu'on a un peu de, parfois de retard. Ben, c'est pas dramatique, donc c'est pas grave, chacun se fait son chemin, mais disons que le 21e siècle pourrait être l'occasion de dépasser un petit peu certaines de ces catégories trop rigides.
C'est pas un peu français aussi de théoriser de façon. Ça va ramener à son identité française.
Peut-être, il est certain qu'en tout cas, les Américains se sont réappropriés plus vite, notamment la culture graphique et la bande dessinée dans les musées, et que quand vous regardez une collection comme celle de 132, dont la richesse est extraordinaire, c'est quand même fascinant de penser qu'on y a fait entrer le design, qu'on y a fait entrer le dessin, l'architecture, la photo, la peinture, bien évidemment, et pas la bande dessinée. C'est quand même un petit peu surprenant, et maintenant c'est un peu tard pour acheter des œuvres de Vincent Maquet, de Möbius ou de Hergé. C'est un peu tard, c'est un peu moins cher que la peinture, mais quand même c'est un peu tard pour constituer une vraie belle collection. Or, si on disait c'est un musée de pure peinture, on pourrait comprendre, ou de pure sculpture et peinture, mais là, on prend le dessin d'architecte, le dessin de designer, et puis tout d'un coup, il y en a un moment là, non, ça c'est pas vraiment. La photo a bien tenté aussi à faire son chemin, et donc. Ce qui est intéressant chez un artiste, c'est tous les langages qu'il a utilisés et comment ils se sont nourris les uns des autres et pourquoi il n'a pas abandonné l'un pour l'autre.
J'ai une petite parenthèse, l'occasion de montrer que les Belges, parfois, ils ont une longueur d'avance sur la bande dessinée. C'est si l'occasion de passer à Paris, au centre de Bruxelles, d'ici début octobre, vous savez qu'à Liège, un musée avait déjà acheté des.
Il y a une exposition, l'âge d'or de la bande dessinée belge, qui est présentée encore.
Tout le monde sait pas. Voilà, jusqu'au début octobre. Je pense qu'il est temps peut-être de continuer à évoquer votre travail, mais avec des images de moi. En premier temps, là, vraiment.
Non, mais c'est pour dire que notre travail est aussi présenté dans la presse. Au début des années 80, François a d'abord publié dans Métal Hurlant, puis on était ensemble dans Assuit.
Alors, si vous faites un petit parallèle avec Métal Hurlant et Assuit, c'est vrai qu'il était très amusant avec Métal Hurlant au début de la fin des années 70, en 77 quand je commence, c'est que je voyais arriver à Métal Hurlant, Ravi Scott, ou Carole Genet, Ken, qui était chanteur, des illustrateurs comme Nicole Clavelou, des tas de gens qui venaient du monde du cinéma, de la peinture, et qui avait comme ça un croisement, un passage, parce que la bande dessinée donnait à ce moment-là le sentiment que tout était possible, il y avait de la lumière, on venait voir, les gens étaient un peu fous, étaient un peu pétés, tout ça.
Il n'y avait peut-être pas que de la lumière, je n'ai pas d'ordre.
Je n'ai pas tout compris, enfin voilà, j'étais un peu plus jeune. Mais toujours dit que c'était un moment un peu rare aussi. Après, les choses vont se reprofessionnaliser, on va les choses vont rentrer un peu mieux dans le.
Et puis il y a de nouveaux courants, la bande dessinée est tellement riche, lui est tellement intéressant, qu'il y a tellement une prolifération de talents, on est dans un monde.
Mais ce qui est quand même tout à fait étonnant dans votre cas, même si vous savez qu'il y avait une sorte de culture et forte, mais c'est quand même d'emblée votre travail a été publié, très très bien. Même étudiant, encore étudiant, déjà il y avait l'animation dans la presse.
Plus que le thème latin pendant pas mal d'années, donc je pense qu'il était il y a 17 ans assez gros. Il y a eu une émulation pour secouer peut-être une bande dessinée figée, et notamment dans le groupe d'étudiants que François a fréquenté à l'école Saint-Luc, le groupe du 9e rêve. Il y a beaucoup d'auteurs remarquables qui ont émergé pour secouer une bande dessinée. On parle toujours de nouvelles bandes dessinées, mais on peut dire que de génération en génération, il y a une nouvelle bande dessinée.
Il faut dire que c'est un moment très curieux, parce qu'on arrive au moment où la bande dessinée classique belge est en train de mourir. Elle meurt jeune, hein, vous savez, on croit que la bande dessinée belge a une longue histoire, en réalité c'est très courant, mais c'est vrai que c'est extraordinaire, hein, Jacob Sergé, le Franquin et toute la bande, à un moment donné, après-guerre, c'est un peu magique ce qui se passe, en tout cas américain et ce qui est gros, avec une concurrence, un peu comme le journal privé sur les journaux américains, chacun essaie de faire mieux que l'autre. Et là, il y a un moment de grâce où tout le monde converge vers les publications belges pour participer à cette espèce de créativité. Mais ça ne fait pas si longtemps que ça, et déjà, à la fin des années 60, au milieu des années 60, Franquin a une dépression, et j'ai... deux figures emblématiques. Et puis, quand nous, on arrive, on voit un Franquin qui nous tend la main et qui nous dit un petit peu « Je m'ennuie. Qu'est-ce que vous faites ? C'est incroyable. » Alors que nous, on sentait tellement admiratif. Puis arrive Mobius aussi, qui reliait enfin, des tas d'auteurs, de titres qui explosent d'autres domaines. Il y a là des tas d'ouvertures. Il n'y a pas tellement de peur que ça. Donc, c'est une chance. C'est comme des trains qui partent. Ben, ça aspire. Ça se plaît quand même. Il y a cette jeune école de bande dessinée à Saint-Luc, qui est une des rares écoles en Europe. Évidemment, ça a créé quelque chose.
Alors, curieusement, l'école de bande est plutôt le lieu de l'explosion graphique. C'est là que François va publier ses premières histoires avec son frère, avec le Grenat. Et à suivre, qui apparaît en 78, marque un retour au récit et à une certaine forme de classicisme. À suivre, c'est la revue de Hugo Pratt, d'abord, avec Porto Maltès, de Tardy. C'est une revue de noir et blanc, mais c'est une revue fondée sur le récit. Moi, je me souviens très bien que j'avais un peu décroché de la bande dessinée et resté fidèle à j'ai et quand je lis le numéro 1 à suivre, je suis émerveillé parce que je trouve des préoccupations qui sont assez voisines de celles que j'ai narrativement. Et donc, quand on se retrouve avec François, on vient un peu ces deux cultures. Quoi. La culture de François nourrit de la bande dessinée classique, mais en même temps, toute la bande dessinée qui s'est développée dans Bilog, dans Métal, dans d'autres, et moi, un morceau de la bande dessinée classique, mais aussi un goût du récit venu d'ailleurs, venu d'autres formes. Et ça correspond extrêmement bien à ce que la Suisse peut chercher à ce moment-là. La Suisse va démarrer en noir et blanc, mais créer une partie en couleur, et donc nous arrivons avec un récit, on est des petits jeunes, mais on est quand même bien accueillis, il faut dire qu'à l'époque, beaucoup moins d'albums qui sortent, et que les revues ont un rôle de lancement très fort. Parce que nous paraissons à côté, bon là on a la chance, on est bien tiré, on a la chance pour le chapitre 2 de Marie de Saint-Marie d'avoir la couverture. On sait que là, peut-être le journal n'a pas le temps à cause de nous, mais on est quand même avec une série de grands auteurs à côté de nous. Donc les gens vont acheter une collègue, ils vont découvrir notre travail. Quand l'album sort, il y a déjà un intérêt. Et puis, c'est un moment où il reste quand même un goût d'expérimentation, ce qui fait qu'on pourra faire un récit bizarre, sans vrai personnage central, avec les murailles de Saint-Marie, et qu'on pourra changer de style complètement à l'album suivant, la créature du point.
Est-ce que, justement, il y a cette articulation, peut-être que vraiment cette articulation entre presse et album, comment ça se passe?
Ah ouais. C'est évidemment quelque chose qui... D'abord, passer dans un journal, d'avoir une rédaction, d'avoir des délais qui appartiennent au rythme du journal, qui est mensuel. On avait quitté le
journal, on publiait une douzaine de pages par mois. Donc il fallait avoir de l'avance quand on commençait. C'est pas du tout le même rythme que Maclay qui fait une page par semaine en temps réel.
Ouais, c'est une discipline très particulière, mais c'est aussi un dialogue avec déjà un premier lectorat. C'est-à-dire qu'on a déjà un retour. On voit déjà comment l'histoire, et même pendant la réalisation de l'histoire est publiée, vous voyez comment elle est imprimée, vous voyez ce que les gens qui en disent, et ça me permet quand même de faire évoluer, pas de la façon dont Vergès faisait chaque jour, pour Tintin, mais quand même. Et après, entre le publication dans le journal et la publication en ligne, on rectifie encore des choses.
Il y avait un temps assez long, d'ailleurs, quand les murailles de Saint-Maris est paru en album, la publication dans le journal était finie depuis un an.
Alors c'est très étonnant parce que nous avions déjà entamé la deuxième histoire, au début, on a juste pour les faire une histoire ensemble, on a déjà entamé et le chapitre 1 de la fièvre du temps est sorti au moment où paraissait l'album, ce qui nous a amené à donner un titre à la série, Les Cités Obscures. Si on avait dû faire paraître les murailles de Saint-Maris juste après la publication, on n'aurait peut-être pas donné ce titre générique puisqu'on l'aurait vu comme un album isolé. Mais là, Casterman a dit, attendez, vous avez un deuxième album qui a l'air une deuxième histoire, qui a l'air de se situer malgré tout dans le même monde. C'est en noir et blanc au lieu en couleur, donc il faut au moins essayer de donner quelque chose qui
est vrai. Donc ça veut dire aussi qu'il n'y avait pas nécessairement une idée de série au tout début.
Alors le mot série n'est pas tout à fait approprié, on ne sait pas très bien comment dire, c'est ensemble, ainsi, je ne sais pas très bien.
ensembles, oui, on pourrait dire même un peu comme la théorie des ensembles, avec des, il y a des intersections, des, voilà, des liens, mais ça n'est pas le même personnage, ça n'est pas la même vie, ça n'est pas la même iconographie.
En fait, on était obsédés par ce qu'on voyait de nos pères, qui souffraient quand même. Alors, en même temps, ça a un gros avantage, le personnage, parce qu'on se connaît bien, quand on termine un livre, hein, c'est une souffrance d'abandonner ce personnage. Le personnage de Bobby, moi je commençais à la fin des 80 pages, à l'avoir vraiment en main. Et à ce moment-là, vous fermez le livre et c'est fini pour le moment. C'était ça qu'on s'était imposé, infligé. Alors le plaisir, évidemment, pour les auteurs qui ont une série, c'est qu'ils font grandir leurs personnages, qu'ils les font évoluer, qu'ils leur donnent des profondeurs psychologiques. Mais le défaut, c'est qu'ils grandissent, ils évoluent graphiquement et qu'à un moment donné, ce personnage ne leur correspond plus. Et nous, curieusement, on voyait ces auteurs qu'on aimait, qu'on admirait, Bergère. Quand même fatigué, je crois, Tintin, s'il savait que c'était son personnage.
Bergère a eu cette chance de faire apparaître, et Franquin à sa façon aussi, de faire apparaître les personnages au fur et à mesure des besoins. Au début, il n'y a que Tintin et Milou, puis il fait apparaître les Dupont, Adobe correspond déjà à une maturation, et puis Tournesol et Lampion, etc., entre d'autres aspects. Pour Astérix, par exemple, l'univers est assez construit tout de suite, et le dessinateur, quelquefois, se sent prisonnier d'un univers qui très jeune et qui doit décliner parce que le succès est là, parce que la pression est comme ça.
Et le lecteur veut qu'avec un adoc, un Castafiore, un Populos, tout le bazar.
Mais imaginons une aventure de Tintin sans Tintin. Ça aurait été encore plus radical que une aventure de Tintin, mais bon, Tintin, il n'est pas là.
Avec sans Milou, c'était déjà mieux.
Les lecteurs auraient été très, très.
Mais sans les Dupont aussi. Comment je ne retrouve pas les Dupont? Et à un moment donné, tous ces auteurs, on les sentait extrêmement piégé. Mais on ne savait pas qu'on allait quand même se piéger nous-mêmes de notre façon.
Oui, parce que même si c'est une série, vous avez quand même chaque fois la liberté, quand il y a un nouvel album, de partir sur une idée tout à fait différente, c'est évidemment un peu chaque fois, et qui induit évidemment cette idée des contraintes graphiques et un travail créatif différent. Alors comment est-ce que ça s'articule? Est-ce que ça s'est chaque fois articulé de la même manière? Est-ce que ça parle d'une idée? Est-ce que c'est... Parce qu'on dit d'abord, il y a un scénariste dans cette forme, mais en même temps, il y a une théorie
qui est beaucoup plus grande. On fait vraiment l'histoire, on conçoit l'histoire ensemble.
Comment ça démarre en fait?
Ça démarre dans la discussion libre, mais tout ne doit pas être retenu. On a pu ajouter des thèmes et les abandonner ou n'en garder qu'un tout petit fragment. Ce qui compte pour nous, c'est que ce soit vraiment fait pour la bande dessinée. Et non seulement fait pour la bande dessinée, mais surtout pour la bande dessinée et le style de François Skeletor. François soit tellement lié organiquement avec ce thème, il correspond tellement que la question de dessiner ne se pose pas. Je crois que François détesterait dessiner un scénario tout fait, venu de l'extérieur, même bon. C'est une autre méthode, quoi. Et d'ailleurs nous faisons ensemble, nous réfléchissons sur la mise en scène, sur la mise en page. Alors d'ici, bon, vous voyez, une mise en page, on pourrait dire, hérité un petit peu de l'époque de Maquet, de Feininger, une mise en page. Très lisible, très simple, mais qui joue vraiment d'avant-pied. C'est des choses qu'on a décidées ensemble, en proposant une idée et en esquissant immédiatement. Puis parfois, François au téléphone, non, mais ce qu'on avait essayé ensemble, c'est pas terrible, j'ai une solution meilleure. Ou bien, tiens, tel texte ne fonctionne pas vraiment, on va voir si on ne peut pas faire quelque chose de plus juste par rapport au dessin tel qu'il tourne, ou bien il y a un élément qu'on ne comprend pas, on va rajouter un détail. Ça reste une matière souple.
Et ce qui est certain, c'est qu'à l'image de Feininger, on essaye. On recevait des contraintes. Là, très vite, c'était un récit sur noir et blanc, parce qu'on voulait une référence, autant le premier était une référence à l'art nouveau, autant ici, on voulait une référence de l'art humain, de l'art nouveau, et du coup, je voulais être un côté plus borose, plus futuriste italien, plus même on a flirté avec toute une série d'architectes à l'image complexe, comme Albert Speer, on voulait vraiment un monde futur. Pourquoi le Corbusier, on s'est inspiré aussi de mon père pour certaines de ses déclarations, qu'il a vraiment apprécié. Donc, c'était vraiment intéressant de malaxer comme ça des tas de choses qui étaient des intentions qu'on avait déjà depuis longtemps, mais qui pouvaient trouver corps. Il faut que le livre s'impose comme une nécessité. Que l'histoire, il n'y avait qu'une qu'on a envie de faire, c'est celle-là, et qu'elle, voilà, que c'est l'histoire de votre vie.
Et notre liberté à cette époque-là, et la liberté dans laquelle elle suit est. Que les albums pouvaient s'enchaîner, évidemment, après fait, ça m'amuse. Et l'Occident, il se passe plutôt dans un monde petit, fin 19e et 20e, avec la tour, on plonge dans un passé beaucoup plus lointain. Une technique graphique et un noir et blanc très différent, alors qu'on est quand même dans le même univers. Et ça, c'est une chance qu'on a eue. Je ne sais pas si les jeunes auteurs auraient de la même façon, c'est pas dire dans un, quand même un support en public, un support expérimental, de permettre de remettre un compteur à zéro à chaque histoire et de tenter une nouvelle aventure. Il faut dire que c'était une époque assez dynamique dans la bande dessinée adulte, que la pierre du temps a eu un prix important en lui-même, que l'accueil est bon, et donc, tant que le public est au rendez-vous, l'éditeur nous laissait aussi vivre nos aventures, prendre nos risques.
Donc, une petite boucle, peut-être qu'on va revenir parce qu'il y a des choses qu'on a dit avant. Là, je tiens, vous êtes inspiré de Orson Welles pour le personnage de Giovanni Battista. Tout l'univers de la tour est très influencé. C'est presque un hommage à l'œuvre de Piranesi. Et c'est vrai que c'est un réel plaisir de prendre une œuvre qui impressionne, qui nous fascine, ce graveur qui a inventé cette Rome complètement fantastique. Et de la développer dans un récit. Comme si on pouvait entrer dans une gravure, il y a des moments où je m'en suis inspiré, mais très 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 précisément, mais en allant chercher aussi chez Hubert Robert, en allant chercher chez Bruegel, en étant dans les gravures de Bruegel, mais aussi dans les gravures de Rembrandt. Et donc c'est la tour, brusquement, autant la perpétuation était tellement nourrie de cette sous-inspiration, c'était très agréable de basculer dans des sources qui sont beaucoup plus.
Une chose qu'on aimait beaucoup et peut-être qu'on ose moins faire aujourd'hui, François, c'est jouer avec une échelle des plans très large par rapport à des personnages extrêmement petits. Bien sûr, dans la tour, même dans le temps, il y a des scènes en plan plus serrées, mais c'était un des plaisirs de desserrer le champ et de faire au fond ce que le cinéma, en tout cas le cinéma de l'époque, où les effets spéciaux étaient beaucoup plus coûteux, ce que le cinéma ne permettait pas vraiment. C'est d'une certaine façon des décors. Perte de vue, si figurant en défigurant, si la perspective est plongeante, c'est le temps du dessinateur, c'est la patience et le talent du dessinateur, mais il n'y a pas de moyens. Et c'est une des forces de la bande dessinée qu'il faut rappeler. C'est que c'est vrai, avec du papier, de l'encre, de chimie, une plume modeste, beaucoup de rang, pas de gravure.
Et beaucoup de plumes.
Et pas de gravure.
Ça sent quasi.
Juste une question sur le personnage, les personnages, parce que dans ce livre, je vous ai consacré, je pense que c'était. Vous dites, il y avait vraiment, on a compris qu'il faut une passion pour le thème et pour partir dans l'aventure, mais il y a une passion aussi, vraiment un amour pour les personnages, dont certains, je crois d'ailleurs, se sont inspirés ou même posent de la vie réelle, Jean de Pantoise, pas des personnes que vous connaissez. Vous avez vraiment besoin finalement d'aimer, de passionner pour ces personnages et que le dessin est une source même de connaissances. Creuser l'entrée finalement de connaissance ces personnages en dessinant. D'ailleurs, d'une manière plus générale, vous dites que vous aimez penser et connaître à travers le dessin. Le dessin vous offre le temps de savoir que une chose est connue presque seulement quand vous le dessinez.
Oui, c'est vrai. Par exemple, il y a un bâtiment très connu, c'est le palais de justice, qui est un peu décrié dans Les Amours. D'ailleurs, avant de vous parler d'impression qu'il est abandonné, parce qu'il y a depuis 30 ans, vous êtes cherché. Le ceinture, c'est vraiment en le dessinant et en le redessinant que je me rends compte de la qualité de l'architecte et de cette œuvre qui est un peu mal aimée. Et bien, en voyant les alignements, en voyant qu'on commence à comprendre, on voit des intentions que vous ne pourriez pas imaginer si vous vous contentiez de le regarder même très attentivement. Mais en repassant presque par là où il était passé, physiquement, vous commencez à ressentir quelque chose qui est presque mystérieux. Mais qui est sans doute les raisons pour lesquelles il a pensé et il a imaginé.
Pour les personnages, c'est pas la même chose.
Alors, oui, ce qui est intéressant, les personnages, c'est très physique. Quand on entre dans la latitude de quelqu'un, si on ne se force pas à réobserver quelqu'un, on ne fait que faire des tics. Et la bande dessinée est une machine, si je peux me permettre, parce qu'il y a tellement de cases à faire, et donc l'observation et revenir en fait au modèle, ça vous oblige à. Vous confrontez au réel.
Vous dites aussi que vous avez une passion pour les corps. Vous avez beaucoup.
Oui, ça apparaît.
Ça apparaît.
Alors, les premiers albums sont justement encore assez larges. Il y a des albums tardifs, mais dès le titre L'ombre d'un homme ou L'enfant penché, on se rend bien compte qu'il y a une différence entre la fièvre d'Obigan ou la tour. Donc, on s'est un peu déplacé. Les gens imaginaient quelquefois que nous voulions ouvrir l'histoire de l'architecture en bande dessinée, ce qui n'était pas du tout notre projet. Notre projet, c'était de développer des récits assez dramatiques dans des décors inspirants. Mais le décor peut être de toute nature. Ça peut aussi être un décor naturel, ça peut être un décor simulé, ce n'est pas nécessairement de l'architecture, et certainement pas, en tout cas, un projet didactique sur l'architecture. Ce n'est pas ça qui nous avait été. Bon, comme on avait voulu échapper aux personnages standards, et donc à ce qui fait une série de bande dessinée, une machine à répéter, il y a déjà beaucoup de répétitions dans un album. On doit déjà redessiner souvent les mêmes personnages et les milieux. C'est pas pour retomber dans une continuité qui aurait été celle d'un thème. Au fond, on a commencé des cités obscures vers 1980. Donc, vous voyez, pas mal d'années sont passées depuis. Le monde a changé, nous avons changé. Et ce qui est très important, c'est que nous restions, nous, enthousiastes et synchrones. On n'est pas le sentiment que les thèmes qu'on aurait développés ou définis à 25 ans sont les thèmes que nous allons devoir traiter envers et contre tout. Et je pense qu'un univers imaginaire, entre guillemets, un univers imaginaire, s'il n'est pas nourri profondément du réel, d'un réel politique, d'un réel géographique, d'un réel humain, c'est un univers qui s'essèche. L'imaginaire pur peut devenir quelque chose d'extrêmement vide, c'est-à-dire que vous le regardez avec curiosité, mais d'une certaine façon avec indifférence. Or, ce qui nous intéresse quand on décrit, quand le personnage de Jane Rowling, avec ce but qui lui traverse le corps et va le libérer, ou ce malheureux personnage de Giovanni qui est dans cette tour gigantesque et qui essaie de s'abandonner, ce qui nous intéresse, c'est que le lecteur vit l'histoire avec nous. Et donc, croit à l'histoire, au personnage et au monde.
Alors justement, pour ne prendre qu'un exemple d'une confrontation d'un album au réel, il y a des questions tout à fait existentielles. Si on prend Bruxelles, vous avez là vous avez là touché à un thème vraiment exposé cruellement auquel vous étiez sensibilisé, tous les deux, c'était un peu le père.
En fait, on avait beaucoup travaillé sur les imaginaires, ça m'arrive sur les plans de la pose, c'est pas simple imaginaire. Et du coup, c'est pas pourquoi on a le sentiment que c'était intéressant de se confronter à une vraie vie, même si on n'avait pas la dessinée exactement comme elle est. Il y a des éléments qui sont très très documentés, c'est une demi-page qui est très précisément des points de vue du vieux Bruxelles, qui était en grande partie démoli, puisqu'on voit encore la scène qui n'existe plus, mais il y a des éléments qui sont extraordinaires. Et donc le rapport entre le réel et l'imaginaire s'est un petit peu cristallisé dans cet album Bruxelles. Et a donné lieu d'ailleurs à des tas de problématiques qu'on a développées dans des documentaires fiction, dans des expositions. C'est un peu un moment, entre guillemets, de basculement.
Et du coup, à la suite de cet album et des questions finalement qu'il a soulevées, vous avez aussi éternué quelque part à prendre la parole, à vous exprimer sur des thèmes, problèmes d'urbanisme.
Oui, c'est amusant d'ailleurs parce qu'à l'époque, hein, une politique bruxellois importante, de notre bon point, et qui a toujours des tensions. Vous avez quasiment convoqué pour vous dire qu'avec cet album et nos conférences, surtout à Tripoli, jusqu'à l'étranger, nous nuisions au tourisme. Et on avait la raison de nous faire nous pour parfois nuire au tourisme par les démolitions inconsidérées. Il avait commandé une bande dessinée positive pour répondre à notre album, qui était de faire beaucoup d'honneur. On avait l'impression que c'était mieux de répondre dans le dur. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont progressé à Bruxelles depuis, mais ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'à un moment, il y a eu un tour qui a été, en fait, je pense que c'était en 2000, un tour qu'on s'était découvert à Bruxelles sur les traces de Bruxelles, et où on faisait visiter notamment le palais de justice, qui actuellement n'est pas dans les circuits touristiques. Donc là, je suis finalement, cette polémique et cette insistance sur les étrangetés d'une ville, ça ne nuit pas au tourisme, ça donne un autre regard sur la ville. Et peut-être ça donne du sens où peut-être même une poésie un peu surréaliste, un peu bizarre, à des lieux qu'autrement on ne regarderait pas. Puis, quand on a fait Bruxelles, on a la question de comment il est de la modernité et d'une certaine modernité inconsidérée de la table rase qui a frappé beaucoup de villes. Aujourd'hui, on s'occupe plus de Paris et on reparlait l'autre jour avec François, la démolition des Halles de Malta. La démolition des Halles de Malta, je m'en considère que la démolition de la maison du peuple à Bruxelles et partout dans les villes. Il y a eu des destructions. Il y a des villes comme le Havre qui ont subi des destructions involontairement et qui ont d'ailleurs édifié une architecture sur cette base. C'est un projet tout à fait extraordinaire. Et il y a des villes qui, sans avoir connu les destructions de la guerre, ne se sont pas aimés et se sont détruits. C'est un peu ça qu'on va raconter de l'histoire de Brussel, qui finalement a pu être connue dans plein de pays, sans que la référence à Bruxelles soit une référence gênante. C'était juste une métaphore poussée un peu loin, puisqu'après tout, le terme de bruxellisation est entré dans le vocabulaire urbanistique du monde entier. Je n'oserais pas vous en donner la définition parce qu'elle est un peu cruelle et je ne voudrais pas faire de peine à un de moi.
Comme le temps avance et que je pense qu'on pourrait évidemment avec plaisir vous donner la parole dans quelques minutes, il faudra aborder, malheureusement, on ne pourra pas le faire dans toute l'ampleur, mais tous les autres aspects de votre travail commun, parce qu'il y a cette série, à ce cycle donc de cités obscures, et puis assez rapidement, il y a eu d'abord votre infini, des œuvres qui ont décliné un certain nombre d'albums, mais alors il y a eu aussi évidemment des expositions que vous avez conçues ensemble, dont une tout récemment. Comment est-ce que. Comment est-ce que tout ça s'est mis en place et comment est-ce que vous avez quitté le seul monde des albums pour aussi travailler avec votre projet commun?
Ben voilà, ça c'est un bon exemple. En fait, à un moment donné, on a eu l'occasion de faire une grosse exposition en Angoulême pour l'inauguration du centre du CPDI et du musée de la bande dessinée. Et on s'est amusé de façon assez pernicieuse, Benoît et moi, le jour pour que ce bâtiment tout moderne de Castro soit inauguré avec une exposition où la bande dessinée était dans une espèce de musée, mais complètement décati, complètement dans un état pitoyable.
La roche elle-même était en morceaux, ouais. Tachée, déchirée.
Donc, j'avais fait des copies très réalistes de mes planches que j'avais saccagées avec un rare plaisir, des tasses de café. Et chaque fois, on prétendait que c'était l'éditeur. Enfin, des fois, j'avais déchiré.
C'était le musée dans ce qu'il y a de pire, de plus triste. L'était la deuxième salle, on passait à travers une page et on entrait dans l'univers en trois dimensions, bibliothèque géante, etc. Donc c'était
un choc. Mais je me rappelle quand même que le jour de l'inauguration, c'était Jacquin qui inaugurait. Il y a quand même un choc, un moment où il espérait inaugurer un bâtiment extraordinaire et je vois encore sa tête.
Oui, mais c'est définitif. Comme l'exposition se passait dans le on avait fait une plaque de cuivre gravée et tout rouillée et tout abîmée, et c'était ce musée a été inauguré par mon premier ministre, chaque L, et ce serait manquait le et la date, mais tout ça, bon voilà. Et donc, c'était un peu troublant, mais c'était peut-être à la bonne façon de jouer ironiquement sur ce que la bande dessinée risquait de devenir, qu'on a mis ennuyeuse, et en même temps, ce sur quoi elle pouvait mourir.
Voilà. Et naturellement, on s'est pris au jeu, on s'est dit, en fait, une planche de bande dessinée, c'est parfait. On y est au mieux. Même si j'en ai, c'est d'ailleurs une planche à papier que je mets presque à vivre.
Mais ce n'est pas un musée, elle est chez toi, voilà. À côté de la table à dessin.
Et c'est magnifique de regarder ça, il y a des magnifiques de Crazy Cat, pardon. Mais en même temps, quand on met ces planches, à un moment donné, c'est ennuyeux parce qu'il y a le meilleur endroit. Voir une planche de bande dessinée, c'est quand même le livre. Et donc, on s'est dit, il faut faire autre chose. Et on a un petit peu mis la main dans des mécanismes qui nous ont poussé à faire des choses un peu curieuses, un peu étonnantes, où le dessin est toujours là, où la conception graphique est toujours là, mais où l'expression scientifique, peut-être c'est une façon aussi d'être d'être des héritiers de la crise.
Donc, un des projets les plus poussés et permanents, toujours visible, c'est la station de métro Arsène-Métier. Si on voit les dessins préparatoire de François pour l'aménagement des quais, mais vous constatez que ça s'est réalisé, et que ça s'est réalisé de manière extrêmement proche. Bon, il y a la différence à la photo, mais la proximité entre le dessin scénographique et la réalisation est très très forte. C'est une façon de faire entrer un morceau d'imaginaire dans la réalité de la ville.
Au départ, la RATP était assez. Enfin, il y avait beaucoup de questions, était assez sceptique. On se demandait si le passager n'allait pas devenir. Dépressif ou.
Voilà, oppressif. Il prétendait que le cuivre, entièrement en cuivre, en laiton, était un matériau anxiogène. C'était une définition très curieuse. Et puis, comme chaque matériau, c'était du ONG pour les sièges, était du laiton, les plaques avaient été transformées, on avait enlevé les pubs aussi.
Mais on nous a dit, c'est très problématique d'enlever les publicités parce que les voyageurs vont s'ennuyer. Donc, voilà, il y a non seulement il y a l'anxiété, mais en plus, il y a l'ennui. Donc, on a dû faire des hublots avec des petites mises en scène, des hublots, pour être sûr qu'ils s'ennuient.
Et les poubelles devaient être jaunes, c'était un combat, je me rappelle, on m'a encore rappelé que c'était une femme des arts métiers qui assistait à ça, qui me dit, vous êtes battu pendant une après-midi pour que les poubelles ne soient pas jaunes, ne soient cuivres. Parce que le jaune, à l'époque, était soi-disant la couleur de la propreté.
Parce que le jaune était la couleur du ticket, et que cette personne, je me souviens très bien, j'étais assez prudent avec François, cette personne disait, si les poubelles ne sont pas jaunes, le réflexe le jour après, les gens jetteront leur paquet à côté. Il était quand même une idée assez pavlovienne
de l'espèce humaine.
Et imaginez, alors François dit, bon, ben alors si les poubelles peuvent être jaunes, je pense qu'il vaut mieux renoncer au projet parce que c'est un choix dans la qualité, etc. Et donc il a fallu l'arbitrage en haut lieu pour que le projet...
Mais maintenant, il faut avouer une chose, c'est que quand on cite ces stations à Port-à-la-Rapide, on ne parlait pas de ces stations parce qu'on a autorisé là quelque chose qu'on autorisait. C'est un peu un miracle. Il faut dire que cet espace de liberté qui est accordé là, généralement, il y a beaucoup d'alignements qui ne se sont pas passés aussi. Il y a beaucoup de projets qui ne se sont pas faits. Là, il y en a un qui va sortir bientôt, c'est le nouvel train, qui s'inaugure dans quelques semaines, dans quelques jours, le 24 septembre à Bruxelles, sur lequel je travaille depuis 10 ans. C'est aussi un miracle. C'est un alignement de planète. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait, et me laisser aller jusqu'à là.
Et quand il n'y a pas d'alignement de planète, ça passe dans leur objet de planète.
Voilà.
Voilà, ça devient des projets. Mais ils vont rêver d'une autre manière, et c'est parfois bien. Quand on pense aux architectes, il faut savoir que nous avons encore beaucoup de chance, parce que dans une bande dessinée qu'on veut faire, on la matérialise. Des architectes très talentueux, mais parfois très célèbres, ont beaucoup plus de projets non réalisés que de projets réalisés. C'est un peu le lot quand il y a de l'argent. Dans la bande dessinée, finalement, avec la confiance de l'éditeur, on peut mener le projet à bien pour qu'un musée ou une exposition spectacle.
Bien voilà, vous avez eu un aperçu très 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 loin d'être complet, vraiment de pas seulement de l'Eston, de la pratique de l'autorité. Peut-être avez-vous mis une autre question, je crois qu'il nous reste une minute seulement.
Je voulais juste vous demander si vous entendez bien. Lors de la création de la station de métro, est-ce que son poids a joué?
Alors, il est passé, pour vous donner une idée de ce qui s'est passé aux arts et métiers, qui est en train de se passer avec le musée du train, c'est qu'au moment où la station va être inaugurée, la RATP est très déficitaire, il n'y a pas de problème, il y a un nouveau directeur qui arrive. Et on lui fait dire, la station à réalité est formidable, mais elle a l'air elle a l'air luxueuse. C'est très embêtant au moment où on doit faire des économies drastiques, où il faut peut-être licencier du personnel. Et donc, le directeur de la RATP de Goff a dit qu'on est tous inauguration et on fait en sorte qu'on en parle moins aussi. C'est la réalité.
Oui, mais la réalité, c'est que 20 ans après, la station est là et qu'elle existe dans le paysage du métro parisien. Donc, c'est ce qu'on peut appeler les ruses de la raison. Des choses se font parfois pour de mauvaises raisons quand elles aboutissent. Et François, tu as l'habitude de ne pas faire de compromis. Tu préfères qu'un projet tombe plutôt que de le faire aboutir dans une version dégradée. C'est un luxe que peut-être parfois les architectes n'ont pas, mais qui a l'habitude de dire. On le fait vraiment ou bien on
a quand même fait des concessions dans le jeu de très cher.
Bon, j'essaie de l'enjoliner un peu.
Alors, entre nous, question ou pas ?
Est-ce que vous travaillez au crayon ou sur ordinateur ?
Non, je ne travaille pas sur ordinateur, mais en même temps, ça demande une explication. Donc, je travaille toujours des techniques très traditionnelles, des plus simples, le papier, le crayon, la plume. Le pinceau, l'acrylique, le crayon, les crayons de couleur, donc des techniques très, très très simples. Mais par contre, pour le cinéma ou pour la scénographie, souvent je donne une aquarelle ou je donne un rendu qui est transposé, qui est travaillé sous mon regard par des infographistes.
Et comme je connais très bien les techniques, en même temps, je ne sais pas, je n'ai pas le talent, ni les capacités, ni la patience. Ce sont d'autres qui le font, mais avec lesquels j'ai un dialogue très constructif.
Et pour la bande dessinée, aujourd'hui, beaucoup d'auteurs utilisent l'ordinateur, notamment dans la mise en couleur, mais la technique de François ne sépare pas vraiment la mise en couleur du dessin. Et donc, la mise en couleur, d'une certaine façon, c'est le dessin qui continue à se développer, qui ajoute des détails, et ce serait donc quasi indispensable de le faire séparément. En plus, la technique de mise en couleur en grand format, avec les outils traditionnels, donc, donne quand même des matières, des effets, que peut-être l'ordinateur ne permettrait pas d'atteindre, en tout cas, il ne permettrait d'atteindre d'une manière assez laborieuse et assez compliquée.
Mais je pense que vous êtes à partir vraiment de tous les aspects jusqu'à la pression aussi, depuis le début, mais il faut surveiller suite à les premières expériences, vous êtes déçus de certaines impressions, vous allez vraiment jusqu'au bout, parce que c'est important pour vous aussi de contrôler ce aspect-là.
Je trouve que la bande dessinée, c'est un métier avec des tas de dimensions artisanales. Il faut savoir faire ses cases, son texte, il faut savoir connaître un petit peu la façon dont ça va être gravé. Généralement, je scanne dans les planches, ou en tout cas très proche. D'ailleurs, il y avait des techniques très intéressantes, le papier était. L'envoi professionnel, on voit toujours un peu moins quand c'est projeté. Ouais. Et donc, il y a toute une technique où le blanc apparaissait, c'était le blanc du papier qui apparaissait, on le voit sur les pierres, c'est plus clair que la couleur du papier.
Donc, l'aspect technique est vraiment, comment dire, tellement lié à ce métier que c'est très dommage de l'abandonner à certains moments. Et c'est vrai que si on fait parfois des planches sur ordinateur, le danger c'est qu'on se sépare de la relation avec le papier, qui est une relation avec le format, et ça se sent aussi à l'impression. Et donc, quand on voit le livre, on sent que l'auteur a trop travaillé sur l'écran, il a trop vu son dessin avec la luminosité de l'écran. Ce qui est très chouette en le faisant tout sur papier, c'est que le papier revient au papier. Et moi j'aime bien travailler avec des infographistes, parce que je sais que ça va être sur un écran. Et alors, on part de l'écran, on termine sur l'écran. Mais c'est vrai que même en faisant de la bande dessinée, il y a un moment donné où ça passe sur un écran. Mais n'empêche quand même, le papier est toujours là. Il revient à la fin sur le papier. Et quel bonheur de choisir son papier et d'aller à l'impression de voir comment les machines mettent l'encre sur le papier. J'ai même poussé le vis jusqu'à aller à l'endroit où on voit avec quel papier. Le garde-la-pâte qui est devant le lac de Garde, en Italie, et j'ai pu voir le papier, comment il se fabriquait. Et bien, mine de rien, ça influe aussi dans la façon de concevoir son travail, parce que c'est entré dans les détails de ce que représente un livre. Eh bien, écoutez, je pense que... Ah, peut-être une dernière question.
Oui, par rapport à la citation que vous avez utilisée, je voudrais savoir si on a tous connu des citations qui sont un petit peu dégradées. Est-ce qu'elle est respectée par le public dirigé comme une œuvre d'art? Ou est-ce qu'il y a des dégradations, des graffitis sur le cuivre? Et comment l'ATP entretient-elle cette citation? Comment est-ce qu'elle vieillit? Est-ce qu'il y a l'oxydation du cuivre? Est-ce qu'il y a des problèmes matériels qui se posent par rapport à ça?
Alors, il n'y a pas d'oxydation du cuivre. Moi, j'aurais bien voulu, mais ils m'ont dit non, c'est pas possible, ça va donner une très mauvaise image. Donc, il a été protégé par un film. Donc, en fait, fige le cuivre et en même temps protège les graffitis. Non, le problème de la station, c'est vraiment pas grave, parce que je vais aller les voir. Alors, on a une réunion prévue dans quelques jours. C'est qu'ils ne maintiennent pas les fibres optiques pour les bibelots, que l'éclairage plafonnier au-dessus des rames était un type de force. En fait, ils acceptent de mettre tout à l'immense rouage avec un éclairage qui vient du plafond. S'ils sortaient du musée des arts et métiers, ils ont accepté ça. Par contre, ils n'entretiennent pas l'éclairage qu'il y a à l'intérieur, parce qu'évidemment, il faut profiter que les rames ne s'écoulent pas pour pouvoir changer les lampes, les équipes ne sont pas prévues. Donc, il y a un travail de maintenance qui est un peu le problème de la RATP, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de stations comme ça. C'est pour ça qu'ils n'en veulent plus.
Mais globalement, c'est quand même un projet qui a bien tenu le coup, parce qu'il est fait avec du matériau qui n'est pas du matériau de décor. Ça, c'était très important, c'était de le concevoir comme quelque chose de permanent et donc avec un matériau qui vieillirait bien à sa façon et pas comme certains effets d'exposition mis en scène où, les derniers jours, on voit les décors déjà se défaire et la peinture.